Merci Marie Richeux.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi, dernier jour de notre voyage entre le grave et le léger dans les pas de Françoise Sagan. Un parcours commencé lundi avec Annick Jail qui nous a raconté l'intimité de l'écrivaine et notamment la vie dans sa maison de la rue d'Alésia ainsi que son rapport à ses amis et notamment à Bernard Franck. Mardi, nous recevions Eve-Alice Roustan et Véronique Olmy pour une émission à mi-chemin entre l'analyse universitaire et le ressenti d'un auteur. L'émission d'hier, elle portait sur les grands thèmes de Sagan, son écriture, son style. Nous étions en compagnie de Céline Romado-Vaquin, auteure d'une thèse sur Sagan. Et aujourd'hui, une émission en deux parties dans laquelle nous allons revenir sur la première année du règne de Sagan, l'année 1954 qui a vu paraître Bonjour Tristesse. 50 ans après, son fils, Denis Westhoff, a demandé à la romancière Anne Berest de se pencher sur cette année si déterminante pour l'auteur des Merveilleux Nuages. Anne Berest, qui avait déjà publié La fille de son père, Au Seuil, en 2010, puis Les Patriarches, c'était chez Grasset en 2012, et qui a laissé de côté son troisième roman en cours pour s'atteler donc à ce Sagan 1954 qu'elle a publié en 2014, pour que l'on se souvienne de ce que cela a représenté dans la société de 54 que la sortie de Bonjour Tristesse. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Vous aimez bien lire ?
Ah oui, j'aime beaucoup ça. Je veux dire, si je lis pas, ça me fatigue de pas lire. Je pleure humainement les gens qui ne lisent pas, parce qu'ils sont à la merci de tout. Les pannes d'avion, les pannes de train, les pannes de tout ce qui. Ça m'est égal, j'ai un livre sous le bras.
Tout le temps ?
Pas tout le temps, mais oui, très, très, très souvent.
Et dans l'enfance, c'était important pour vous la lecture ?
Oui, enfin, il paraît que j'ai commencé à lire très, très, très tôt. Je prenais un livre et je demandais à ma mère est-ce que c'est pour moi ? J'avais 2 ans, donc j'avais le livre à l'envers. Et ma mère disait, oui, c'est pour toi. Oui, je commençais à lire très tôt. Oui. Enfin, comme les petites filles à l'école, quoi. Mais j'ai commencé à aimer ça très tôt.
Bonjour Anne Berest.
Bonjour.
Alors, vous vous êtes intéressée à cette année 1954 de Sagan, année primordiale pour elle, puisque c'est donc l'année de la parution de Bonjour Tristesse. Et elle a seulement 18 ans, mais on sent que c'est le livre de quelqu'un qui a déjà beaucoup, beaucoup lu.
Oui, c'est-à-dire que, pour revenir sur la genèse du livre, parce que cette semaine, vous avez entendu des gens qui étaient des grands spécialistes, et puis ensuite, vous allez parler avec Alain Vircondelet, que j'ai moi-même interviewé pour ce livre, et qui connaît intimement Sagan. Moi, ce qui était très particulier quand j'ai écrit ce livre, c'est que c'est son fils qui est venu me voir et qui m'a demandé d'écrire ce livre. À la mémoire.
Vous n'y auriez pas pensé vous-même ?
Non, pas du tout. J'y aurais pas pensé pour 2 raisons. D'abord parce que écrire une biographie ou un genre biographique me serait pas venu à l'esprit. Et puis parce que écrire sur Sagan, moi, j'avais adoré Sagan, lire Sagan, mais c'est pas quelqu'un dont je me serais jamais dit je vais écrire sur elle, non jamais. Et Denis, donc le fils de Françoise, est venu me voir et m'a demandé d'écrire ce livre. Il fallait l'écrire dans l'urgence. J'avais 5 mois pour l'écrire. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais un livre, quand il écrit rapidement, je dirais c'est 1 an, 2 ans. 5 mois, c'était une gageure vertigineuse. Et donc, il a fallu très très vite que je me plonge dans la piscine de champagne Sagan et que je lise tout et que j'écrive ce livre. Donc voilà, par rapport à tous les gens très 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 brillants que vous avez et que vous allez rencontrer.
Et Alain Vircondelet, qu'on entendra
voilà,
dans quelques minutes.
Que vous allez entendre et que je salue. Moi, je n'ai pas j'ai un rapport à Sagan qui est très différent.
Mais quand même, quel est le livre que vous préférez de Sagan ?
La chamade. La chamade pour le personnage féminin que je trouve trouble, élégant, charmant. Et puis pour le film de Cavalier, qui sont, voilà, Alain Cavalier en a fait une adaptation avec Catherine Deneuve qui est sublime.
Est-ce que vous avez eu l'occasion...
Du coup, j'ai oublié votre question de départ.
C'était l'idée que Sagan avait beaucoup lu, que c'était quand même...
Quand elle écrit le livre, oui, elle a lu, et particulièrement, elle a lu Proust. Et c'est dans Proust qu'elle trouvera son pseudonyme. Elle a lu toute la recherche, à 18 ans, à 17 ans, 18 ans, c'est pas mal. Puis c'est une école de la vie, Proust. Hein. Quand on a lu la recherche, on a quand même... pu comprendre un certain nombre de rouages de la vie. Et voilà. Et donc, moi, j'ai retrouvé dans Proust les deux occurrences du mot Sagan. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que dans Proust, il y a deux Sagans. Il y a un homme et il y a une femme. Il y a la princesse et il y a le prince. Et je trouve que c'est signifiant qu'elle ait choisi comme pseudonyme un être qui soit à la fois homme et femme.
Vous pensez que c'est fait exprès, ce côté, cette androgynie, du coup ?
Oui, parce qu'elle avait, les deux choses. Ce qui, à l'époque, était considéré comme des attributs de garçon. Évidemment, aujourd'hui, on fait exploser toutes ces notions-là de genre. Mais pour l'époque, elle aimait les voitures, elle aimait la liberté, elle aimait les bandes de copains, elle aimait partir seule. Voilà. Et en même temps, elle aimait l'amour, elle était sentimentale, elle était douce, elle aimait la mode. Donc voilà, elle avait aussi tous ces attributs-là. Donc voilà, pour répondre à votre question par un long détour, oui, elle avait beaucoup lu.
Est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter des archives de cette année 1954 de Françoise Sagan ?
Alors, c'est très particulier parce qu'elle publie le livre en 1954 et elle devient célèbre à la fin du mois de 1954. Donc les premières archives... sont celles de la jeune fille qui devient célèbre. Or, moi, mon livre raconte tout ce qu'il y a avant. Avant que ça, que le succès lui tombe sur le coin du nez.
Alors justement, une archive de Françoise Sagan à 18 ans, entretien avec Pierre Barbier dans le cours de cette année 54.
Nous avons maintenant devant le micro l'auteur Françoise Sagan, cette jeune romancière de 18 ans. Car en effet, Françoise Sagan, vous aviez bien 18 ans lorsque vous avez écrit ce livre.
Oui, j'avais 18 ans depuis exactement le 21 juin, c'était depuis un mois et demi.
Et maintenant, quel âge avez-vous ?
Eh bien, j'ai 18 ans et demi.
Oui, on peut encore vous demander votre âge. Il m'a semblé que Bonjour Tristesse était un très joli rêve oedipien. Comme dit Calvero dans Limelight, pas besoin d'être le docteur Freud pour deviner cela.
Bien, je crois que c'est un point de vue qui est extrêmement acceptable, mais personnellement, je ne tenais pas du tout à en faire une illustration de psychanalyse, et je verrais plutôt une histoire ordinaire.
Une histoire ordinaire, mais est-ce que vous entendez par là une histoire comme vous en voyez autour de vous ou comme vous avez vécu vous-même ?
Ah non, pas du tout, vu que moi-même, une histoire comme j'en ai. Comme il s'en passe tout le temps, je crois, sans qu'on le sache, parmi les gens.
Bon, on a été frappé par le cynisme de ce livre, le cynisme qui contraste avec la jeunesse de l'auteur, ou qui au contraire s'accorde avec la jeunesse de l'auteur. Et alors je voudrais vous demander si l'absence de sentiments dans Bonjour Tristesse est due à votre nature, à ce que vous pensez, ou bien à un parti pris de l'écrivain.
Ah, c'est un parti pris, parce que Cécile est comme un espèce d'instrument pour moi, et je voulais tout voir par les yeux de Cécile. Alors, c'est pas du cynisme, c'est plutôt de l'inconscience chez elle, à mon avis. Et d'autre part, elle a des sentiments très tendres pour son père, assez tendres pour sa victime, en un sens. Quant à Cyril, c'est un incident.
Bon, il n'est donc pas exclu que vous écrirez un jour un roman sentimental.
J'espère bien, oui.
Alors je ne sais pas pour vous, Anne Berest, mais moi ce que j'aime et que je trouve amusant dans cette archive, c'est la manière dont Pierre Barbier est assez paternaliste finalement avec la petite fille. Quoi.
Il est même quasiment condescendant. Hein. Là encore, je veux dire, ça va, il choisit ses mots, mais il ne faut pas oublier qu'après elle va se faire insulter et conspuer par les critiques qui vont voir en elle le démon. Hein. Moi, ce qui me frappe dans cette interview, c'est qu'on dit qu'aujourd'hui, la littérature, les écrivains et le public ont besoin de choses vraies. On dit que c'est l'ère du temps, veut qu'on on veut des histoires vraies, on veut savoir si c'est vrai, si les écrivains ont vraiment vécu ce qu'ils ont vécu. Et dans cette archive de 54, on voit que M. Barbier pose exactement la même chose, les mêmes questions qu'aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez vraiment ce que vous avez vécu, ce que vous avez écrit. Et ça fait penser à une chose qui me frappe, c'est que quand Sagan a rencontré son éditeur, la première question qu'il lui a posée, c'est est-ce que vous avez vécu ce que vous avez écrit. Elle dit non, c'est pas du tout une autobiographie. Et ça le soulage. Ça le soulage parce qu'il se dit, si elle n'a pas vécu ce qu'elle a écrit, c'est que c'est un écrivain et qu'elle écrira d'autres grands livres comme celui-ci.
Son premier éditeur, c'est Julliard.
Oui. Et voilà, je trouve que c'est une réflexion intéressante par rapport à, si on le met en relief avec la littérature d'aujourd'hui.
Julliard, premier éditeur, mais pas premier lecteur.
Non, pas du tout. Le premier lecteur de la maison d'édition, c'est un monsieur qui s'appelait Le Gris et qui, paraît-il, portait bien son nom parce qu'il était un peu sans couleur.
C'était déjà quelqu'un d'un petit peu âgé quand il reçoit Bonjour Tristesse.
Voilà, un peu triste. Et voilà, c'est lui qui, le premier, s'arrête devant le caractère inédit de ce qu'il est en train d'écrire.
Elle l'a envoyé à 3 personnes.
Oui.
Vous racontez cela dans votre roman, Trois maisons d'édition.
Voilà, le livre raconte quand même... Dans mon livre, le héros principal, c'est le manuscrit. C'est-à-dire que dans mon livre, je raconte comment est-ce qu'un manuscrit passe des mains de son tout jeune auteur à un best-seller. Mais c'est tout le parcours. On la voit déposer aux éditeurs, comment elle choisit ses éditeurs, comment les éditeurs le lisent, le reçoivent, envoient des lettres, l'autre le rate parce qu'ils répondent trop tard, la recherche de son pseudonyme, la mise en place de la presse, de l'aspect commercial. C'est l'histoire d'un premier roman. Le fait est que ce premier roman va être le premier roman le plus connu du XXe siècle, mais c'est aussi l'histoire d'un premier roman tout simplement.
Alors ce monsieur Le Grix, oui. Ou Le Gris, ou La Grise aussi, parce qu'on le surnommait comme ça, donc il fait une fiche de lecture et vous avez retrouvé cette fiche de lecture, vous l'avez reproduite dans votre livre. Vous pouvez nous en lire un extrait un peu signifiant ?
Alors, pas signifiant, parce que c'est un extrait... Parce que Le Gris a dit que le livre était génial. Mais c'est un extrait dans lequel, c'est assez drôle, il dit tous les défauts du livre.
Donc, les défauts selon lui ?
Selon lui, hein, évidemment. Alors, la plume de Mademoiselle Quarez... Parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas encore son pseudonyme. Quarez, c'est Françoise Sagan, Françoise Quarez. La plume de Mademoiselle Quarez court joliment, sans défaillir. Cela nous empêche de remarquer les impropriétés nombreuses qu'il conviendrait de faire disparaître d'un texte si heureux.
Ah, les éditeurs.
Dès la première ligne, je m'arrête sur ceci, 2. Sur ce sentiment inconnu, j'hésite à opposer le beau nom de tristesse. Offense à l'euphonie, mais aussi à la syntaxe. L'auteur écrira quelque part « à l'entente de ce rire comblé » au lieu de « à entendre ce rire ». J'ai souligné beaucoup de ces défaillances qu'un peu d'attention suffirait pour corriger.
Donc cette première phrase
oui.
Sur laquelle s'arrête François Le Grix, eh bien, elle va aussi taper dans l'œil, si l'on peut dire, de René Julliard,
oui.
À qui il va immédiatement transmettre ce manuscrit.
Ce soir-là, je raconte ça en détail dans le livre, René Julliard, donc l'éditeur, a eu un dîner très arrosé, il rentre chez lui, il est très tard, et on lui a mis sur...
Avec le président du conseil économique.
Voilà, donc un dîner passionnant, on imagine. Et donc, il a sur sa pile de travail un manuscrit qu'on lui a envoyé, et bon, il est fatigué, il est un peu ivre, alors j'imagine... Moi, mon métier, comme je ne suis pas universitaire, mais que je suis écrivain...
C'est... Et lectrice, vous avez été aussi lectrice.
Ah oui, parce que j'ai été aussi lectrice des... Voilà, je me suis servie aussi de ma...
Dans une maison d'édition.
De ma vie personnelle. Donc, j'ai été lectrice d'édition. Je sais ce que c'est que de voir une pile de manuscrits, de commencer le premier, de se demander si ça va vous plaire, pas vous plaire. Bon, bref. Donc, je mets tout ça en scène. René Julliard est dans son fauteuil confortable. Il ouvre le manuscrit. Il y a une date de naissance. Il calcule très vite dans sa tête. Il voit que l'auteur a 18 ans. Il faut savoir qu'en 54, 18 ans, c'est mineur. Donc, je me dis que, voilà, en éditeur qui connaissait les lois du marketing, il se dit 18 ans, waouh, c'est pas mal. C'est intéressant. Et il commence à lire, et là, on le sait, hein, les témoignages le disent, il n'en revient pas de ce qu'il lit. Il est obligé de lire plusieurs fois le livre dans la nuit, tellement il est estomaqué par la maturité et par le style de l'œuvre qu'il vient de lire. Il se réveille le lendemain matin, il l'appelle directement chez François Sagan, il envoie un télégramme, il a très peur. Et surtout,
en fait, il a peur que ses parents ne soient pas d'accord pour...
Il a plusieurs peurs. C'est ça. D'abord, il a peur de se dire « c'est une blague, on m'a fait une blague ». Une jeune fille de 18 ans n'a pas pu écrire ce livre. Donc il se dit, qu'à cela ne tienne, moi, on ne va pas me rouler dans la farine, je vais donner rendez-vous à l'auteur et je vais le cuisiner et on va bien voir si c'est elle qui l'a écrit. Ça, ça a été sa première peur.
Et l'entretien dure 3 heures.
3 heures. Deuxième peur, c'était qu'un éditeur le prenne avant lui. Que Gallimard, que Plon aient déjà signé un contrat. C'est pour ça qu'il appelle tout de suite. Et qu'il propose beaucoup d'argent. Et la troisième chose, c'est qu'il a eu peur que les parents ne donnent pas leur autorisation, évidemment, puisqu'elle est mineure.
Mais sous réserve qu'elle change son nom, l'autorisation a été donnée et on a pu lire quelques mois plus tard les pages de Bonjour Tristesse.
Cet été-là, j'avais 17 ans et j'étais parfaitement heureuse. Les autres étaient mon père et Elsa, sa maîtresse. Il me faut tout de suite expliquer cette situation qui peut paraître fausse. Mon père avait 40 ans, il était veuf depuis 15, c'était un homme jeune, plein de vitalité, de possibilités, et à ma sortie de pension, 2 ans plus tôt, je n'avais pas pu ne pas comprendre qu'il vécut avec une femme. J'avais moins vite admis qu'il en changeât tous les 6 mois. Mais bientôt, sa séduction, cette vie nouvelle et facile, mes dispositions m'y amenèrent. C'était un homme léger, habile en affaires, toujours curieux et vite lassé, et qui plaisait aux femmes. Je n'eus aucun mal à l'aimer, et tendrement, car il était bon, généreux, gai et plein d'affection pour moi. Je n'imagine pas de meilleur ami ni de plus distrayant. À ce début d'été, il poussa même la gentillesse jusqu'à me demander si la compagnie d'Elsa, sa maîtresse actuelle, ne m'ennuierait pas pendant les vacances. Je ne pus que l'encourager car je savais son besoin des femmes et que, d'autre part, Elsa ne nous fatiguerait pas. C'était une grande fille rousse, mi-créature mi-mondaine, qui faisait de la figuration dans les studios et les bars des Champs-Élysées. Elle était gentille, assez simple et sans prétention sérieuse. Nous étions d'ailleurs trop heureux de partir, mon père et moi, pour faire objection à quoi que ce soit.
Il y a une certaine langueur dans ce texte de Françoise Sagan.
Une langueur, un érotisme en fait. Une langueur érotique, oui. Qui traverse tout le livre.
C'est peut-être cet érotisme qui a plu au seul jury féminin, au seul juré féminin,
ouais,
du prix des critiques que Sagan va recevoir très rapidement après la publication de son livre, parce que c'est Dominique Horry qui est donc la seule femme de ce jury du prix des critiques.
Et Dominique Horry, donc, qui est l'auteur d'Histoire d'eau.
Roman pornographique adressé à Jean Paulhan.
À Jean Paulhan. Et nul doute que Dominique Horry ait été touchée par... Non, je crois... Non, moi, je suis sûre qu'au fond, c'est pas parce qu'elle écrit un livre pornographique qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. C'est une femme avec la même exigence littéraire que les messieurs qui sont autour de la table du jury. Et sans doute que comme eux, elle a été subjuguée par le style incroyable de François Sagan. Voilà.
C'est un roman qui est moins scandaleux tout de même que Histoire d'eau. Vous racontez que votre lecture, votre découverte de Sagan était moins une découverte de l'érotisme que peut-être un petit déplacement simplement. Ça n'est pas une littérature érotique pour vous.
Mais ça peut pas l'être pour notre génération. Sagan, à l'époque où elle paraît Bonjour Tristesse, l'éducation sexuelle des filles n'est pas la même que celle que moi j'ai connue quand j'avais 17-18 ans. C'est une époque particulièrement coincée, austère dans le rapport de la femme à la sexualité. Donc évidemment, en 54, on demande aux jeunes filles de lire Bonjour Tristesse en cachette. Moi, C'est mes parents qui me disaient, mais lis François Sagan, lis Bonjour Tristesse.
C'est devenu un classique.
Évidemment, donc c'est pas du tout comparable. C'est pour ça que je donne l'exemple dans le livre, parce que ce que je trouve merveilleux avec ce qui s'éteint avec ma génération, c'est qu'on a découvert l'érotisme dans les livres. Quand je vois mes filles, je suis très triste de me dire qu'elles ne connaîtront pas ce que moi j'ai vécu. Elles vont découvrir le porno avec Internet. Moi, j'ai découvert le porno avec les livres. Donc, c'est tout un monde qui change. Donc, évidemment, quand je lis Bonjour Tristesse à 18 ans, ça ne me renverse pas de
désir.
De désir. En revanche, cela me frappe, cela me plaît, et surtout, cela m'ouvre une porte en me disant, voilà, on peut être une jeune fille et être écrivain.
Alors j'ai pensé en lisant votre livre, Anne Berest, à un livre de Françoise Sagan, et ce livre, c'est « Des bleus à l'âme ».
Ça m'aurait amusé de reprendre maintenant les personnages d'il y a 10 ans. Sébastien et sa sœur Éléonore, personnages de théâtre, bien sûr, mais d'un théâtre gay, le mien, et de les montrer fauchés, toujours gays, cyniques et pudiques, essayant en vain de se refaire à la Maurice Saxe, dans un Paris désolé de sa propre médiocrité. Malheureusement, la médiocrité de Paris, ou la mienne, est devenue plus forte que mes envies folasses. Et j'essaie péniblement aujourd'hui de me rappeler quand et comment cela a commencé. Je crois que ce fut en 69, et je ne crois pas, hélas, que les événements de 68, leur élan et leur échec, y soient pour grand-chose. Ni l'âge. J'ai 35 ans, de bonnes dents, et si quelqu'un me plaît, généralement cela marche encore. Seulement je n'en ai plus envie. J'aimerais aimer, et même souffrir, et même trembler au téléphone, ou mettre un disque 10 fois de suite, et respirer le matin en me réveillant cet air de bénédiction naturelle qui m'était familier. On m'a ôté le goût de l'eau et puis celui de la conquête. C'est un disque de Brel, je crois. Mais en tout cas, ça ne marche plus et je ne sais même pas si je vais montrer ces pages à mon éditeur. Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas une vraie confession. C'est quelqu'une qui tape à la machine parce qu'elle a peur d'elle-même et de la machine et des matins et des soirs, etc. Et des autres. Ce n'est pas beau, la peur. C'est même assez honteux, et je ne la connaissais pas. Voilà tout. Mais ce tout est terrifiant.
Anne Berest, est-ce que vous voyez pourquoi on peut penser au bleu à l'âme en lisant votre livre ?
Oui, parce que... Dans Les Bleus à l'âme, elle se met en scène elle-même en train d'écrire. Et dans mon livre, je me mets en scène en train d'écrire ce livre.
Vous l'avez fait en référence aux Bleus à l'âme ?
Alors non. Ce qui s'est passé, c'est que, comme je disais au début de l'émission, c'est que j'avais très 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 peu de temps pour écrire ce livre. Et ce que Denis m'avait demandé, il m'avait demandé, est-ce que tu peux montrer...
Denis Westhoff, le fils
de François Sagan, qui m'a demandé d'écrire ce livre, il m'avait dit, je voudrais que tu expliques pourquoi François Sagan est encore très très moderne aujourd'hui. Alors bon, je travaillais, et puis à côté, bon, j'écrivais mon journal, où je racontais ce qui était en train de... Rien à voir avec le livre, je racontais ma vie.
Qui à ce moment-là était difficile.
Qui à ce moment-là était difficile. Et puis en écrivant mon journal, je me rends compte que j'écris que... En faisant les recherches sur François Sagan, je me rends compte que je prends plein de citations, qu'elle m'aide, que je trouve que ce qu'elle dit, ça me donne du courage, ça me met du baume au cœur. Et je me dis tout d'un coup, mais en fait, elle est là, la modernité de Sagan. C'est que cette femme qui est morte, eh ben, pour moi, elle est en train de devenir comme un fantôme ami qui me prend par la main et qui est en train de m'aider à traverser ce que je suis en train de traverser. Et donc, il faut que je le dise dans le livre. Parce que c'est ça la mission qu'on m'a confiée. Et donc, je fais ce qu'on appelle de l'autofiction, ce que je n'avais jamais fait, c'est-à-dire que je raconte ce qui me traverse à ce moment-là. Et je commence ça, et puis au bout d'une semaine, comme j'étais en train de lire tous les livres de Sagan, je lis Les Bleus à l'âme. Et là, ça, je me dis, ah bon, bah, c'est comme un clin d'œil. Elle est en train de me dire, vas-y, en fait, tu peux le faire, ça. Tu peux te raconter toi-même, je te donne l'autorisation. Tu ne vas pas venir voilà, dans mes pattes du livre. Je suis d'accord que tu le fasses.
Parce que Sagan, dans Les Bleus à l'âme, dit « J'aimerais commencer mon livre en évoquant... » Alors, un personnage qui est déjà un personnage saganien, un personnage de château en Suède, en évoquant ce personnage montant 4 à 4 les escaliers. Ouais. Mais je ne le peux pas parce que je suis triste et déprimé. Ouais. Et vous commencez en disant « J'aimerais raconter un livre sur Sagan qui commencerait par un moment où elle croiserait Cocteau dans la rue et où il ne se reconnaîtrait pas. Ouais. Mais je suis trop déprimé. »
Exactement. Mais... En fait, j'avais pas encore lu Les Bleus à l'âme quand j'ai écrit ça, mais je dois dire que j'ai eu, pendant que j'écrivais ce livre, voilà, comme des... Quand on écrit, on est dans un état très particulier, et moi, quand j'écris, je vois des signes partout. Je ne dis pas que ces signes existent, mais moi, je me les crée.
Vous êtes même allée voir une voyante.
Voilà, je suis allée voir... Rassurer. Exactement. Et donc, tous ces signes, je suis dans un état second, et tout me renvoie au livre. Et quand j'écrivais le livre sur Sagan... j'avais l'impression qu'elle m'envoyait des signes pour me dire « Vas-y, continue, tu peux faire ça, t'as le droit de faire ça, je te promets, tu... » Parce que moi, j'avais peur d'écrire des choses qui ne soient pas à la hauteur d'elle ou qui soient fausses. Et c'était comme si elle me disait « Vas-y, continue, c'est bon. »
Et la voyante vous a dit quoi ? Elle vous a dit...
Alors la voyante, en fait, Sagan était allé voir une voyante quand elle avait 17 ans. Et cette voyante lui a dit, vous allez écrire un livre et ce livre va dépasser les océans. Et c'est cette voyante qui lui a donné le courage de ressortir son manuscrit qu'elle avait mis au fin fond d'un tiroir. Et donc comme je devais raconter cette scène de voyante, je me dis, je vais aller voir une voyante. Comme ça, je vais pouvoir raconter. Donc on me conseille une voyante. Et très vite, cette voyante me dit, mais vous êtes en train d'écrire un livre. Alors, je dis...
C'est une bonne voyante, elle a vraiment l'œil.
Je dis oui, elle dit oui, je le vois. Et elle me dit, vous écrivez un livre sur une femme, mais une femme qui a eu une vie d'homme. Vous écrivez sur François Sagan. Et honnêtement, là, j'ai eu un
elle
sentiment...
Elle vous a dit, vous écrivez sur François Sagan.
Ouais. C'était fou. Personne, à part mon éditeur, ne savait que j'écrivais. Même ma mère ne savait pas que j'écrivais sur François Sagan. Personne, c'était le début du travail.
Peut-être que vous lui aviez prononcé des phrases qui sonnent à la Sagan, comme dans votre livre, j'en cite une au hasard, « Enfiler la pensée de François Sagan comme des bas de soie ». Oui. Ah, on ne peut pas ne pas penser à la première phrase de « Bonjour tristesse ». Pas tout à fait la première, mais presque. « Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie énervante et douce et me sépare des autres. »
Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des correspondances entre ce que j'ai écrit et « Bonjour tristesse ». Ça, c'est voulu. Mais je vous promets que cette voyante n'avait aucun indice et ne pouvait pas savoir que j'écrivais sur François Sagan. C'est une expérience les plus bizarres de ma vie.
Merci beaucoup Anne Berest. Je rappelle donc votre livre
Merci
Sagan
à vous.
1954, c'est chez Stock. Et tout de suite, voici En compagnie des revues. Et nous avons le plaisir d'être rejoints aujourd'hui par Philippe Roger, directeur de la revue Critique. Bonjour Philippe. Alors l'été approche, hein, même si on a du mal à le croire, mais la revue Critique, elle, ne chôme pas, puisque vous publiez chaque été deux numéros spéciaux et le premier sort dans quelques jours.
Oui, le 9 juin, encore une semaine à attendre, sauf pour nos abonnés, donc abonnez-vous, rabonnez-vous.
Mais on va le faire évidemment. Donc ce numéro aura pour titre « Musique, violence, politique ». Or depuis Platon, on a souvent associé musique et politique, mais plus rarement musique et violence. Alors Philippe, pourquoi ce titre ?
Ben, le lien est ancien entre musique et politique, vous venez de le rappeler. Hein, pour Platon, certains modes musicaux, amollissants, lascifs, étaient nuisibles à la cité, il fallait donc les bannir. Et on trouve déjà chez Platon l'idée d'un contrôle politique par la musique. Mais dans ce numéro, nous nous intéressons à des périodes beaucoup plus récentes. La Troisième République, par exemple, a très consciemment mis en musique l'idée républicaine, les cafés-concerts aux vastes chorales populaires. Et cette mobilisation musicale est bien décrite par Jan Passler, une musicologue californienne, dans un livre passionnant, Composing the Citizen,
qui
est désormais traduit aux éditions Gallimard, hein, et dont Olivier Hill rend compte pour nous. Et après la défaite de 1940, l'effondrement donc de cette même Troisième République, autre son de cloche, si j'ose dire, c'est l'occupant nazi, c'est Vichy, qui entreprennent de mettre au pas la musique, pour reprendre ou paraphraser le titre d'un tout récent ouvrage de Karine Lebaille, publié par CNRS Éditions.
Alors évidemment, avec ce dernier exemple, on est totalement, Philippe, dans la violence.
Oui, et là aussi, on pourrait remonter à l'Antiquité, à Sparte, vous savez, la musique faisait partie intégrante de l'éducation guerrière.
Et là encore, vous avez fait le choix d'évoquer des guerres contemporaines et aussi des mugissements tout récents. Je pense par exemple à l'article d'Esteban Buch consacré aux sirènes du 13 novembre.
Oui, l'idée de ce numéro, et tout le mérite en revient à Marielle Massé qui l'a piloté, c'est de croiser réflexion théorique et études de terrain. Alors, réflexion théorique, car une nouvelle discipline est en train d'émerger, on l'appelle les sound studies, encore de l'anglais, comme son nom l'indique, elle s'intéresse aux univers sonores, sans distinction, au bruit comme aux musiques, et Bastien Gallet nous la présente à travers les ouvrages de Jonathan Stern, dont une histoire de la modernité sonore, c'est le titre français, vient d'être traduit, coédition, Philharmonie de Paris et La Découverte. Et côté études de terrain, ce qui frappe, c'est le nombre d'ouvrages consacrés à la dimension sonore de la guerre. Violetta Nigro-Giunta, une musicologue, propose ainsi une lecture croisée de deux livres, « Entendre la guerre sur l'environnement sonore » de 14-18, chez Gallimard, et « Listening to War » sur celui de la guerre d'Irak, Oxford University Press.
Mais tout de même, rassurez-nous, Philippe, la musique n'a pas la même importance militaire que du temps des tambours, des fifres et des trompettes.
Je ne sais pas si je vais vous rassurer. Elle a changé de statut, mais elle n'a rien perdu de son importance. Et l'auteur de Listening to War décrit même la seconde guerre d'Irak comme une guerre de l'iPod, dont la musique accompagnait partout le soldat américain. Et cet iPod de guerre, je l'ai appris dans cet article, ne servait pas seulement à lui soutenir le moral. Grâce à une application spéciale, il permettait aussi d'améliorer la précision de son tir.
Non, ça fait peur quand on voit tous ces gens qui en ont dans le métro. Encore plus surprenant, peut-être, le lien qu'établit Peter Sandy entre musique et torture.
Et qui n'avait pas échappé à Woody Allen. Il y a une mémorable scène de torture burlesque dans Bananas. Mais comme c'est un film de 1971, vous n'étiez pas né, cher Mathieu.
Non.
Peter Sandy est philosophe, musicologue, auteur d'essais comme « Écoute, une histoire de nos oreilles » aux éditions de Minuit. Dans le texte qu'il nous a donné, il évoque une autre scène dont s'est certainement souvenu Woody Allen. Elle figure 10 ans plus tôt, en 1961, vous étiez donc encore moins né, dans « One, Two, Three » de Billy Wilder, un film extraordinaire. Cela se passe à Berlin-Est et deux agents de la Stasi torturent le jeune Otto en lui passant et repassant la chanson « Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini » sur un électrophone décentré. Mais silence, je préfère vous laisser découvrir dans Critique ce très beau texte de Peter Sandy, intitulé « Ordali sonore ».
Voilà, et puis on ne parle pas que de musique et de son dans Critique. Il y a aussi un final qui n'est pas, encore une fois, musical.
Oui, il s'agit tout de même d'un homme orchestre, Umberto Eco, disparu le 19 février, et auquel nous rendons hommage. Pour évoquer Eco sémiologue, nous redonnons à lire un texte important, paru dans Critique en 1985, pas si loin quand même, et qui est la matrice de son livre « Sémiotique et philosophie du langage ». Mais nous voulions aussi évoquer Umberto Eco tel qu'en lui-même. Et qui pouvait le faire mieux que Paolo Fabbri, un de ses plus proches amis. Paolo Fabbri nous a très généreusement donné deux textes, un affectueux portrait souvenir du maestro et un compte-rendu du dernier ouvrage paru en italien qui rassemble ses chroniques dans l'Espresso. Il les appelait les bustine di Minerva, les petites enveloppes de Minerve, allusion assez énigmatique aux pochettes d'allumettes de la marque Minerva qui lui servaient de calepin, minuscule carnet d'un grand écrivain.
Eh bien, merci beaucoup Philippe Roger. Et donc, c'est en librairie qu'on peut trouver la nouvelle livraison à partir du 9 juin de la revue Critique. Vous écoutez toujours la Compagnie des auteurs et nous terminons aujourd'hui notre série sur Françoise Sagan avec un dernier arrêt à Bordeaux où nous sommes en duplex avec Alain Vircondelet, mais c'est pour parler au paradoxe du rapport de Sagan à la capitale française.
yesterdays. Days I knew as happy, sweet, sequestered days, all in days, golden days, days of mad romance and love. Then gay.
Alain Vercondelet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez publié Le Paris de Sagan, c'était aux éditions Alexandrine en 2015, ça n'est pas vieux. Et vous êtes aussi l'auteur d'une biographie de Sagan, Sagan, un charmant petit monstre, publié chez Flammarion en 2002. Mais vous avez en plus écrit plusieurs ouvrages sur Marguerite Duras. Et pourtant, Duras n'était pas tellement apprécié par Sagan. Alain Vercondelet, on va parler un peu de ça avant de parler de Paris quand
oui,
même.
Je crois que c'est un peu une légende. Hein. De même, on dit que Duras n'aimait pas Sarraute, que Duras n'aimait pas Yourcenar. C'est vrai que Duras lisait seulement elle-même, ou relisait ce qu'elle écrivait, mais lisait peu les autres. Effectivement, il y a deux personnalités qui sont très opposées, très différentes. Duras et Sagan, c'est tout à fait autre chose. C'est un abîme entre les deux. Pourtant, c'est toutes les deux, enfin, du moins pour Sagan, pour Duras, on le sait, mais c'est un grand écrivain, et un écrivain, je dirais, presque patrimonial, Sagan, aujourd'hui. Et que n'aimait pas Duras chez Sagan ? C'est un peu, encore une fois, des on-dit, des légendes. Peut-être sa désinvolture, peut-être sa manière de ne pas se prendre au sérieux.
Mais Sagan n'aimait pas Duras non plus, elle n'aimait pas son impudence, elle n'aimait pas sa personnalité.
Oui, mais elle respectait son travail, elle le disait, hein, elle l'a écrit. Elle aimait évidemment ce qu'elle écrivait, et parce que les deux... je dirais les deux objets d'étude des deux écrivains, c'est quand même l'être dans sa profondeur et dans son et dans ses secrets. Et je crois que elle respectait ça chez Duras. Mmh. Mais effectivement, Duras n'aimait pas sortir, elle n'aimait pas les boîtes de nuit, elle n'aimait pas la vie entre camarades. Non, c'était une grande solitaire. Tandis que Sagan, évidemment, nous connaissons sa vie un peu débridée. Et c'était donc deux personnalités très différentes.
Ce qui pouvait les rapprocher peut-être, c'était l'idée que tout aille à sa perte, cette idée que tout est vanité, cette idée que dans la vie, au fond, il ne s'agit que de passer.
Oui, tout n'est que poursuite du vent, disait Duras, hein, en reprenant les phrases de l'Ecclésiaste. Mais on pourrait dire aussi qu'il y a de cela chez Sagan, mais en même temps, un grand désir de la jouissance. Chez Sagan et un ascétisme qu'il n'y a pas chez elle et que Duras aimait. Voilà, vous voyez, ce sont des choses qui sont des nuances entre les deux, mais ce sont deux puits, si j'ose dire, deux puits dans lesquels le lecteur s'engouffre et s'abîme quelquefois.
Vous dites dans ce livre, page 12, ce chien d'arrêt, ces gens de bien et de mal qu'on appelle le tout Paris. Alors, depuis que vous faites des romans, des pièces de théâtre, on se demande pourquoi être presque, j'allais dire, obnubilé par ce monde du tout Paris, alors qu'à chaque fois, dans ce que vous écrivez, on s'aperçoit que vous avez par rapport à lui un recul évident et que certaines des valeurs auxquelles vous êtes attaché ne sont pas du tout les valeurs du tout Paris. Pourquoi revenir sans cesse sur ce...
Là, c'est obligatoire, puisque ils vivent de ça. Enfin, ils vivent la presse est indispensable pour l'exercice de leur métier, pratiquement, surtout pour elles. Donc, ils sont tout le temps guettés. Et, enfin, ils sont un épicentre de ce qu'on appelle ce tout Paris, qui fait et défait les réputations et qui, dans la mesure où ils pourraient jeter par terre Béatrice, donc la rendre malheureuse dans ses ambitions, pourrait aussi bien influer sur leur histoire d'amour. Mais c'est uniquement comme ça, c'est comme décor, c'est un décor.
Alors la ville de Paris et Françoise Sagan, Alain Vercondelet, les deux ne pouvaient, dites-vous, que se comprendre, s'entendre et s'aimer. Pour quelle raison ?
Bien, parce que d'abord, il y a dans Paris une... Ce qu'elle aimait dans Paris, d'abord, c'était des climats, c'était des saisons, c'était une certaine lumière. C'était une certaine liberté, c'était aussi une profondeur d'énergie, et une violence d'énergie qu'elle allait recueillir après avoir passé des nuits blanches. Et aussi, ce qu'elle aimait dans Paris, c'était le cosmopolitisme, c'était ce mélange des genres, c'était ce métissage, c'était cette errance qu'elle pouvait, à laquelle elle pouvait s'adonner en toute liberté et presque anonymement. Voilà, c'est cela qu'elle aimait dans Paris. Mais en même temps, alors pour reprendre des termes durassiens, il y a l'inside et l'outside. Elle aimait Paris et elle le raconte, hein, comme Duras a raconté quelquefois des épisodes parisiens dans Outside, un recueil de chroniques qu'elle avait faites, qu'elle avait écrites. Mais il y a aussi et surtout chez Sagan l'inside, c'est-à-dire que la litanie des locations qu'elle a occupées, en fait, compte, ont été pour elle comme des nids, ont été comme pour elle des refuges, parce que Paris de tous les jours ne pouvait pas non plus lui convenir.
Et alors, quand elle déménageait, elle demandait à ses amis à la fois de lui chercher un appartement et puis d'organiser tout le déménagement. Donc, en fait, il l'appelait et lui disait, ben voilà, ton nouvel appartement, ce sera rue Guynemer et tu n'as plus qu'à emménager. Mais elle ne le savait même pas à l'avance.
Oui. Elle imposait un petit peu ses choix quand même. Bon, elle voulait tantôt rive droite, tantôt rive gauche. Mais c'était pour elle vraiment un refuge. Et c'est pourquoi c'est très ambigu, cet amour qu'elle a pour Paris. Surtout quand on sait qu'elle a aimé d'autres lieux. Saint-Tropez et particulièrement évidemment le manoir du Breuil en Normandie. Donc il y a Épicajar, bien sûr, qui est le lieu finalement fondateur et en même temps celui où elle a voulu, où elle est enterrée. Donc il y a chez elle, c'est une terre, Paris est une terre quelque part d'adoption. C'est une terre qu'elle a occupée parce que ses parents ont habité boulevard Malesherbes dès sa naissance. Et donc, elle a occupé ce lieu, je dirais, presque comme un exil aussi. Parce que le vrai centre, l'épicentre de, à la fois de sa personnalité, d'elle-même, de son œuvre, c'est quand même une terre plus sauvage. C'est-à-dire Cajar, la chaleur ou alors le midi de la France.
Mais vous diriez qu'elle est avant tout urbaine tout de même.
Alors oui, elle est urbaine sûrement, mais vous voyez bien que à partir du moment où elle a connu cette gloire incroyable, elle était très effarouchée. C'est un personnage qui est, on le voit bien, on l'entend même tout à l'instant, on vient d'entendre sa voix, on voit bien qu'elle est très elle est très peureuse. Elle ne veut pas s'engager trop auprès des gens. Elle était effarouchée. Je crois que c'est peut-être le bon terme. Et donc elle n'aimait pas du tout, parce qu'elle savait qu'elle était reconnue être dans Paris. Alors elle se réfugiait dans ce que j'appelle, ou que Duras appelait l'inside, c'est-à-dire sa chambre intérieure, et où elle aimait se confiner. Et elle écrivait comme ça, pelotonnée, hein, avec un calepin ou une machine à écrire dans son lit. Elle a toujours écrit de manière un peu sauvage, un peu hasardeuse, un peu bohème. Voilà, ça, c'était ça l'univers de Sagan. Et en même temps, elle récupérait Paris, elle le récupérait surtout la nuit. Parce que évidemment la nuit, d'abord il y avait moins de trafic, et elle aimait la splendeur, la beauté souveraine de Paris quand elle arpentait les Champs-Élysées à 2h du matin ou 3h du matin, ou quand elle se trouvait place Vendôme ou rue de la Paix
à la sortie des discothèques, parce que Paris évidemment c'était aussi un lieu de fête.
Et le jazz, qu'est-ce que c'est pour vous le jazz?
Je sais pas, j'aime beaucoup ça. Vraiment beaucoup, voilà. C'est. Je sais pas, il me semble que depuis que j'ai 4 ans, j'écoute du jazz.
Vous avez toujours entendu du jazz dans votre milieu, dans votre famille? J'imagine que vos parents déjà écoutaient du jazz.
Et puis mon frère a quand même 8 ans de plus que moi. Quand j'avais 7 ans, il en avait 15 ou 16, il commençait déjà à rapporter des disques d'Armstrong. Alors depuis 14 ans, j'écoute du jazz.
Puisque vous avez prononcé le nom d'Armstrong, quels sont les autres grands du jazz que vous aimez?
Je sais pas si j'aime tellement les grands, j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup Armstrong, Fats Waller. Et puis d'autres, ça va être Jerry Mulligan, Bop, Chet Baker, puis un s'appelle Buck Clayton, que j'aime beaucoup aussi comme ça. Et puis je sais pas, deux ou trois comme ça. Et puis alors, comme chanteuse, j'adore Billie Holiday, ça je trouve qu'elle a une voix de... Le jazz, c'est quand même ma vie, si vous voulez. C'est le rythme, c'est je rentre, je sors, il y a cette musique, il y a les portes des boîtes de nuit qui s'ouvrent sur une trompette, il y a tout, c'est le tempo, quoi. C'est un espèce de toile de fond.
Un métronome.
Mais Mozart, c'est comme quand on ouvre un livre, quoi. Il faut s'arrêter et plonger dedans. C'est pas une chose qu'on peut ne pas écouter facilement.
Alors c'est un peu un cliché évidemment, Alain Vircondelet, mais Paris, c'est la grande ville et c'est donc aussi la solitude. Vous dites que la solitude la plus grandiose aux heures les plus profondes, c'est à la sortie des boîtes de nuit et c'est évidemment dans Paris qu'elle les ressent.
Oui, mais on a des photos extraordinaires d'elle, parce que Sagan a été très très photographié, et on a des photos d'elle sortant dans des boîtes de nuit et se retrouvant carrément en place Vendôme, ou toute seule, au pied de la colonne, et on a l'impression que c'est presque c'est surréaliste, et voilà, c'était ces endroits-là que Sagan aimait dans Paris.
C'est une Zazie, un petit peu comme la Zazie de Queneau.
Oui, c'est une Zazie. Elle a été Zazie. Et elle a été Zazie quand elle faisait ses fugues. Et elle a écrit cela dans La Ville buissonnière, une petite nouvelle où elle raconte comment, lorsqu'elle était encore au couvent des oiseaux à Paris et que elle avait perdu la foi au couvent des oiseaux d'ailleurs elle a été renvoyée pour manque de spiritualité. C'était le motif. Hein. C'est une citation. Et donc elle faisait. Elle fuguait énormément dans la ville et elle disait à ses parents qu'elle allait en classe et elle partait le matin et elle rentrait que tard le soir après les présumées études qu'elle devait faire et elle arpentait donc Paris et les quais et elle rencontrait, elle faisait des rencontres, elle a rencontré un clochard par exemple avec qui elle avait beaucoup sympathisé, devenu une amie, elle le rencontrait plusieurs fois par semaine et ils arpentaient ensemble les quais de la Seine. Mais ce sont des endroits toujours très singuliers qu'elle aime. Hein. C'est le monde. Ce sont des endroits qu'aurait aimé Éluard, qu'aurait aimé Apollinaire, qu'aurait aimé Musset, qu'aimait Proust aussi. Donc c'est tout cet univers-là que Sagan porte avec elle.
Oui, parce que quand on lit effectivement votre ouvrage, on parcourt Paris en même temps que les classiques et les moralistes du grand siècle. Qui pour vous font partie de l'univers de Sagan.
Ah mais complètement, c'est même pas pour moi, c'est qu'elle le disait. Vous voyez, moi j'ai rencontré Sagan à la fin de sa vie, lorsqu'elle habitait avenue Foch, dans cet magnifique appartement de l'avenue Foch, où elle était hébergée chez son amie Ingrid Béchoulam.
Un petit peu froid et un petit peu triste.
Mais évidemment, mais en même temps, bon, elle y était heureuse, et elle me parlait justement des lectures ou des écrivains qu'elle avait côtoyés ou lus dans sa vie, c'était toujours les mêmes qui revenaient, c'est-à-dire Apollinaire, Proust, Baudelaire, Éluard, Musset, Rimbaud, et puis surtout les grands moralistes du XVIIe, auxquels elle ressemble énormément par cette langue vive, nerveuse, qui sait tirer d'un paysage ou d'une personnalité, le trait marquant. Elle écrit au trait comme ça. Hein. Elle n'a pas une écriture puissamment picturale. Hein. Elle a une écriture de graveuse.
Mais du coup, Alain Vircondelet, on peut se poser la question de la ville de Paris dans les romans de Françoise Sagan. Parce que Paris n'est pas vraiment.
Peu, hein.
Paris n'est pas vraiment effectivement un décor pour les romans de Sagan et on peut se demander pourquoi.
Ben, je crois que ce qui a toujours. intéressé Sagan, c'était quand même, comme on le disait au tout début de notre entretien, c'était quand même l'être au plus profond de sa vérité. Et donc, ce qui l'intéressait, c'était le décor des âmes. Et c'est en ce sens que c'est une moraliste. Ni La Bruyère et très peu Pascal, qu'elle aimait beaucoup, n'ont traité de la ville. Quelquefois, comme ça, on trouve quelques mots sur Paris chez La Bruyère ou chez Montesquieu, mais très peu. Donc, ce qui l'intéressait surtout, c'était vraiment d'atteindre c'est pas une écriture psychologique, hein, mais c'est une écriture qui essaie quand même de l'âme, si j'ose dire, hein, de l'âme, L-A-M-E, hein, c'est-à-dire elle écrit quand même avec une lame, comme ça, elle essaie d'atteindre jusqu'à l'os, aller à l'os des choses et des êtres.
Mais effectivement, si elle
donc s'intéresse... Donc Paris n'est pas, n'apparaît pas trop dans son œuvre, presque pas.
Hein. Si elle s'intéresse effectivement aux âmes, aux personnages, aux portraits, ce ne sont pas n'importe quel personnage, et ce sont des personnages de ce qu'on a appelé le tout Paris. Elle-même faisait partie du tout Paris. Oui. Et donc, en creux comme ça, c'est quand même un esprit de gens qui vivent en majorité à Paris qu'elle peint dans ses romans.
Oui, c'est ça. Ce sont des gens qui, effectivement, sont ceux qu'elle a rencontrés, qu'elle a croisés. Ce sont des gens qui sont souvent en errance d'eux-mêmes. Ce sont toujours des gens qui sont des alcooliques, ou des drogués, ou encore des artistes, ou bien des êtres qui n'ont pas de vie aussi conjugale très établie. C'est le monde de la bohème, de toutes les façons, hein, d'une bohème riche et aisée qu'elle a souvent côtoyée et qu'elle restitue dans ses œuvres. Mais en même temps, Paris n'apparaît pas, ou très très peu. Et effectivement, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai écrit ce livre sur le Paris de Sagan. J'ai bien observé que ce n'était pas dans l'œuvre que... C'est pas Modiano, hein, Sagan. C'est pas dans l'œuvre que nous aurions trouvé des pistes pour comprendre la relation qu'elle avait avec Paris.
Un dernier mot, Alain Vircondelet, c'est un mot d'Inès de la Fressange que vous citez dans votre livre et qui est amusant. Je vous laisse, si vous l'avez là comme ça en tête...
Non, je ne l'ai plus.
Alors, je vous le donne. Elle a dit, Inès de la Fressange, au sujet de Sagan, elle semble démontrer que Saint-Simon et Saint-Tropez ne sont pas incompatibles, parce que Saint-Tropez, c'est presque un arrondissement de Paris.
Bien sûr, mais je reconnais bien la pétillance de la vision d'Inès de la Fressange. En effet, il y a quelque chose de Saint-Simon chez Sagan, justement par le trait dont je parlais tout à l'heure, hein, cet esprit ces coups de canif qu'elle donne dans le cœur des êtres et qu'elle essaie d'extirper des traces, des sentiments, des émotions. Que l'on voit bien chez Saint-Simon, hein, mais en même temps on y voit la cruauté, etc. Et aussi bien sûr Saint-Tropez, parce que comme chacun le sait, Sagan a beaucoup aimé ce lieu qui était le lieu, mais qu'elle a essayé de restituer finalement chez elle, puisque ce qu'elle vivait à Saint-Tropez, elle l'a vécu dans ses maisons bohèmes de la rue du Cherche-Midi, de la rue Guinemer, et Gréco l'appelait Mademoiselle Pinson ou Le Pinson. C'est vrai qu'elle avait quelque chose comme ça d'un oiseau qui sautillait d'une branche à l'autre. Et il y a quelque chose de... Quand elle était hébergée, par exemple, à l'hôtel du Tessia ou à l'hôtel du Pont-Royal...
Oui, c'est vrai qu'elle a vécu aussi dans les hôtels.
Elle a vécu dans les hôtels, et des hôtels de luxe, des hôtels et des palaces, mais elle pouvait tout aussi bien vivre dans des maisons de pêcheurs, comme elle l'a fait avec ses séjours à Saint-Tropez. En fait, Sagan, c'est en ce sens où c'est un personnage qui est tout à fait bohème, dans la mesure où elle peut tout aussi bien écrire et vivre dans une chambre de bonne que de vivre dans un palace ou avenue Foch. Voilà, c'est cette capacité qu'elle a de pouvoir comme cela être partout, mais surtout en elle-même.
Eh bien, merci beaucoup Alain Vircondelet pour cette évocation de Sagan et Paris. Merci aussi aux équipes techniques de France Bleu à Bordeaux. Et puis, je rappelle donc votre livre Le Paris de Sagan, c'est aux éditions Alexandrine. Tout de suite la poésie sur France Culture.
Holy, holy, holy.
15h54, c'est donc le moment de retrouver notre séquence de lecture de poésie. Toute la semaine, Jacques Bonafé vous propose d'entendre des textes du regretté Christophe Tarkos, mort du cancer en 2004 à seulement 41 ans. Aujourd'hui, l'amour toujours.
Bonjour, nous continuons avec quelques-uns des 10 poèmes d'amour de Tarkos parus dans Oui, Christophe Tarkos, écrit poétique aux éditions POL. 5. Je t'embrasse, je prends ta bouche avec ma bouche, tu prends ma bouche avec ta bouche, elle se touche, j'ouvre tes lèvres avec ma bouche, tu ouvres mes lèvres, à ta bouche, à ta langue, tu tournes sa langue dans sa bouche, je tourne ta langue dans ma bouche, je découvre ta bouche, tu découvres la sensation de ma bouche, ma langue douce avec ta langue, j'enveloppe ta langue dans ma langue, je la mélange, tu tournes ta langue, tu la mélanges, elle se tourne, il se mélange, je t'aime, tu me laisses entrer, je laisse glisser ma langue, elle sème, ta langue est dans ma bouche, tu caresses ma langue, tu m'aimes. 6. Je t'aimais et je t'aime toujours, je t'aime encore comme je t'aimais, je t'ai aimé et je ne cessais de t'aimer, je ne peux cesser de t'aimer, je t'aime encore, je n'ai pas cessé de t'aimer, je t'ai aimé, je t'aimais, je t'ai vraiment aimé, je t'ai aimé comme je t'aime encore, je n'ai pas cessé de t'aimer, t'aimant, je continuais à t'aimer, je t'aimais, je continue de t'aimer, je t'ai aimé, je t'aime pour toujours, je t'aime, je continue, je t'aime. Petite note, Tarkos cherchait alors à taquiner son amie Nathalie Quintane qui était fâchée avec lui. On peut interpréter que Tarkos suggère une déclaration d'amour de Quintane à Tarkos alors même que le jeu du poème est un homme qui s'adresse à une femme. Ma chérie, mon amour, mon père, ma fille, ma beauté, ma princesse, fille, joliesse, mon Dieu, ma sœur, comment vais-je m'adresser à toi ? Toi qui n'existes que dans mon cœur, excuse-moi de ne savoir comment m'adresser à toi dans ce désir de t'envoyer ma pensée, de parler. Je n'ai jamais parlé à qui n'existe pas encore, qui est dans mon amour. Je t'aime, toi que je ne sais encore comment m'adresser, tu ne peux répondre, toi que j'aime, toi à qui je m'adresse d'amour. Je t'aime, toi que je ne sais nommer, à qui je ne sais comment m'adresser, tu ne peux répondre. Comment te parler, ma chérie, mon amour, mon père, je t'aime, je veux te parler. Oui. Le livre « Oui » est un objet. Les lettres me sautent à la figure. Hop, hop, le poème de dehors, je tourne les pages. Hop, hop, je te donne. C'est un poème qui est en deux colonnes. Je te le donne. Tu me le donnes ? Oui, je te le donne. Tu veux ? Oui. Tu es d'accord ? Oui, je te le donne. Mon accord, c'est vrai ? Oui, tu le veux. J'aimerais que tu le veuilles. Je veux bien. Tu le veux bien ? Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai, tu veux me le donner ? Oui, je veux vraiment te le donner. Je le prends. Prends-le. Tu veux vraiment mon accord ? Vous le vouliez bien et vous me le demandiez ? Je te le donne. Je te le transmets. Merci, je suis touché. Oui, je te le donne. Tu me donnes. Il faut se dépêcher. Allez vite. Tu me le donnes pour de vrai ? Oui, il est donné. Tu me le donnes. Je te donne. Deuxième colonne. Tu me donnes, il faut se dépêcher, allez vite. Tu me le donnes pour de vrai ? Oui, il est donné. Tu me le donnes ? Je te le donne comme je te l'ai donné. Tu es gentil, je te le donne. Oui, je suis gentil. Tu me le donnes ? Je te l'ai donné. Tu me le donnes ? Oui, pour toujours et sans arrière-pensée. Il est à toi. Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Oui, je te le donne. J'aimerais que tu le veuilles. Tu me le donnes. Je suis touché par ton geste de me le donner. Oui, je te le donne. Tu es gentil. Oui, je suis gentil. C'est important de penser, penser comme ça, penser parce que penser a un sens. Il y a là et il y a penser. Penser comme ça, tout seul, en l'air. C'est important de penser, penser comme ça. Important de penser, penser comme ça, posé en l'air. Christophe Tarkos.
Du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Jacques Bonafé lisait des textes extraits des œuvres poétiques de Christophe Tarkos, éditées par POL. Et c'est ainsi que se termine cette émission consacrée à Françoise Sagan. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre série en podcast. Merci à Anne Berest, dont le livre Sagan 1954 a été publié chez Stock en 2014. Merci à Alain Vircondelet, son ouvrage Le Paris de Sagan fait partie d'une collection de la maison d'édition Alexandrine. Il a paru en 2015. Demain, c'est Mathieu Conquet qui officiera à cette heure-ci pour Continent en musique. Il recevra Arnaud Contreras pour son film Essaouira, ainsi que le groupe Touareg Tel Assouf. Et puis nous, on se retrouve lundi avec une semaine consacrée au romancier fantastique H.P. Lovecraft. D'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Twitter et aussi en cherchant la compagnie des auteurs sur Internet de manière générale. Cette émission était réalisée par David Jakubowicz. À la console, il y avait Jacques Azuber. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost et Sophie de Lombarès, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu. Dans un instant, La Marche des Sciences, Aurélie Luneau.